Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Perrine Suquet avec Charlotte Méritant. C'est Philippe Duval qui est à la réalisation technique de cette heure du crime consacrée, vous l'avez peut-être entendu juste avant les infos quand on en parlait avec Christelle Rebière et Vincent Parizeau, consacrée à la disparition mystérieuse d'un garçon de 16 ans à Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. C'était le 18 mars 2015 et Lucas Tronche, c'est le nom de ce garçon, a laissé partir son frère devant lui. Il devait prendre un bus pour aller à un entraînement de natation. Il lui a dit, vas-y d'abord et je vais te rejoindre. Et en fait, il n'est jamais arrivé à cette piscine. On a trouvé dans la maison ses affaires de natation. Donc ça pourrait être une indication qu'il n'avait pas l'intention, en tout cas ce jour-là, de se rendre. Mais on en sait à la piscine, mais on n'en sait pas plus. Alors, avant de faire avec les parents de Lucas, Eric et Nathalie, et avec des journalistes qui suivent l'affaire, avec la procureure de Nîmes qui a ouvert une information, comme on le disait tout à l'heure, pour enlèvement et séquestration. Je voudrais simplement qu'on réentende un document RTL qui date de quelques jours après la disparition de Lucas, donc en 2015, c'était 10 jours après à peu près. Aline Thibane, la correspondante d'RTL dans la région, s'était bien sûr rendue sur place.
Chaussures de marche, chasuble jaune, toute la journée des centaines d'habitants de Bagnols ou du Gard ont continué à ratisser la campagne. Lucas a disparu en emportant son sac à dos, sa trace se perd très vite dans la garrigue. Excellent élève, sympathique, sportif, scout passionné de nature mais aussi des missions de survie, sa famille ravagée par l'inquiétude se raccroche à l'espoir qu'il se cache peut-être quelque part. Eric, son papa, lance ce message.
Je pense qu'il pourrait effectivement faire une espèce de mini stage de survie, mais l'inquiétude qui pourrait nous causer, ça me semble un peu difficile à imaginer, mais peut-être qu'il est dans un état de détresse. S'il écoute le message, je voudrais dire qu'on l'aime, qu'on l'attend, les bras ouverts, qu'on le grondera pas.
En liaison avec la police et les gendarmes, on continuera le temps qu'il faudra, confie Jean-Yves Chaplet, le maire adjoint de Bagnols, qui coordonne les recherches.
Ce petit, il vaut le coup, quoi. Et c'est pas qu'il y a des petits qui valent pas le coup, mais là, celui-là, on l'a pris en affection. Je pense que c'est notre Lucas à nous, et on veut pas lâcher le morceau, quoi.
Fugue, ennui personnel, mauvaise rencontre. Les enquêteurs aujourd'hui n'excluent aucune hypothèse.
Voilà, ce papier de notre correspondante Aline Thibal, c'était donc il y a un peu plus d'un an. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à Lucas. On va revenir sur un certain nombre de points de l'enquête, sur les questions qu'on continue à se poser, qui pourraient expliquer cette disparition. Et nous allons le faire tout de suite, d'ailleurs, avec Nathalie et Eric Tronche, les parents de Lucas, qui sont donc près d'Aline Thibal, dans le studio RTL A7, près de Montpellier. Bonjour. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
On vous entendait à l'instant, Eric Tronche, lancer cet appel. Nathalie, vous avez lancé d'autres appels depuis cette un peu plus d'une année. Au jour d'aujourd'hui, l'enquête n'a toujours pas avancé.
Non, l'enquête n'a pas avancé dans le sens où, comme je disais tout à l'heure, le stage de survie, il est tombé à l'eau. Oui. Et puis, l'absence d'indices, de preuves, de oui. signes de Lucas, ça nous rend très, très inquiets, de plus en plus inquiets.
Bien sûr, alors c'est une inquiétude qui est évidemment partagée par les services d'enquête, mais qui, eux, ne baissent pas les bras, hein, vous le confirmez. Oui. L'enquête continue vraiment et des moyens considérables ont été mis sur cette enquête. Et puis autour de vous, il y a un vrai mouvement de solidarité.
Oui, c'est vrai que depuis le début, en fait, il y a énormément de bénévoles qui se sont livrés corps et âme pour permettre de diffuser la vie de recherche. Parce qu'il faut pas oublier que dans une affaire de disparition, c'est le plus important, la vie de recherche, pour un support aux forces de police, parce qu'il faut absolument trouver une trace, trouver un témoignage qui va nous amener à reconstituer ce qui s'est passé et le but ultime, évidemment, c'est de retrouver Lucas.
Alors, nous reviendrons ensemble hein, sur ces appels que l'on peut faire à ceux, par exemple, qui écoutent aujourd'hui RTL, mais aussi dans toute la région et puis finalement dans toute la France, hein, puisque ces appels à témoins sont valables pour l'ensemble du territoire. Il ne faut pas hésiter à contacter les services de police parce qu'on peut se tromper de bonne foi. Il vaut mieux se tromper de bonne foi que de garder pour soi une information.
Un appel n'est jamais inutile.
Voilà, qui pourrait être importante. Alors, on en parlera tout à l'heure aussi de cette solidarité, de ce qui se passe dans votre région avec Hélène Amiraud, qui est journaliste à Midi Libre, qui suit cette affaire depuis le début, puisqu'elle était, je crois, au bureau du Midi Libre à Bagnols-sur-Cèze. Tout de suite, je voudrais qu'on entende le point sur l'enquête qu'a fait il y a quelques jours. En fait, c'était le jour anniversaire de la disparition du Lucas, le 18 mars dernier. Au micro d'Aline Thibal, vous allez entendre la procureure de la République de Nîmes, Madame Laure Bécuot, qui faisait le point sur les pistes suivies depuis le début de cette enquête.
L'intégralité des pistes que nous avions eues au début de cette enquête reste pertinente et doivent le rester parce qu'il ne faut qu'on s'interdise aucun acte d'enquête possible. Donc parmi ces pistes, vous savez qu'elles étaient au nombre de 4 à l'origine. La fugue, le suicide malheureusement, le fait de sortir et d'avoir un accident, de quelque nature qu'il soit, et puis aussi la pire des pistes, la piste criminelle. Et donc, dans ces 4 hypothèses, ce qui, pour nous, fait de ce dossier un dossier avec un mystère total, c'est que chacune de ces pistes a été explorée de manière extrêmement intense par les services de police, et que pour aucune de ces pistes, on a le moindre élément qui nous permette d'avoir un début de compréhension de ce qui a pu se passer. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que si certaines personnes à l'époque n'avaient pas osé témoigner et se disent aujourd'hui qu'il y a un an que les faits se sont passés et que c'est inutile, ça n'est pas inutile. Les services de police et de justice restent totalement engagés dans la recherche de Lucas et il faut qu'ils apportent tous éléments qu'ils puissent connaître. Pour la piste de la fugue, si quelqu'un croit le voir, je dirais, à Lille, eh bien qu'il appelle de Lille. Pour la piste criminelle, si on se souvient d'un individu suspect, qu'il le fasse connaître. Pour la piste accidentelle, que toute association, tout chasseur, tout pêcheur, tout randonneur qui se trouve dans les périmètres de la disparition de Lucas, eh bien continue à être vigilant lorsqu'il est dans ce périmètre pour apporter tout élément utile au service d'enquête. Le travail d'investigation des policiers a été massif. Je vous rappelle qu'il y a 2 services qui sont saisis, le SRPJ de Montpellier et l'Office central de répression des violences faites aux personnes, qui est un service donc extrêmement spécialisé et qui a fait de ce dossier sa priorité. Ça veut dire qu'ils ont exploité la téléphonie au moment du lieu des faits. Ils ont exploité toutes les personnes qui étaient inscrites au fichier des délinquants sexuels qui habitaient sur la région. Ils ont exploité tous les numéros d'immatriculation du rond-point non loin du domicile de Lucas. Ils ont exploité tous les témoignages qu'on leur a donnés. Ils ont entendu tous les proches de Lucas. Enfin, je pourrais continuer la liste ainsi parce qu'ils ont essayé d'ouvrir des portes ou d'enfermer certaines et que dans l'un ou l'autre cas, ben, les portes qui ont été ouvertes n'ont pas été pertinentes en piste concluante puisque nous en sommes à l'heure actuelle au même constat que celui que je faisais au moment de l'ouverture d'informations. Eh bien, celui que 4 pistes doivent être intellectualisées et que 4 pistes doivent continuer à être exploitées. Alors j'ajoute que pour vraiment qu'il y ait toujours une totale mobilisation, il y a ces 2 services de police saisis, mais le juge d'instruction aujourd'hui n'est plus seul puisqu'un 2e magistrat instructeur a été désigné. Ça veut dire que même si un juge d'instruction, je vous dirais, est occupé à une audience ou est en vacances ou était appelé à changer d'affectation, eh bien il y aurait toujours un autre juge qui serait présent pour répondre aux sollicitations des témoins, des services enquêteurs. Si tel ou tel témoin n'ose pas s'adresser au service de police, il peut écrire directement au palais de justice. Enfin, toutes les possibilités, toutes les pistes restent ouvertes et tous les choix restent ouverts pour qu'on aboutisse dans ce dossier.
Donc aujourd'hui, vous lancez encore un message.
Oui, je le lancerai jusqu'à ce qu'on ait la solution dans ce dossier. Et il ne faut jamais perdre espoir et surtout, il ne faut jamais perdre sa motivation. Donc, je ne privilégie rien. Et je vous indique que tout reste pertinent et que l'appel à témoins que je faisais il y a un an, je le reformule aujourd'hui exactement dans les mêmes termes, comme si la disparition de Lucas, c'était hier.
Madame Laure Bécuot, qui est la procureure de la République de Nîmes, donc au micro d'Aline Thibal. Et elle parlait à l'instant de ce deuxième service de police qui est également associé à l'enquête de la PJ de Montpellier, l'OCRVP, l'Office central pour la répression de la violence faite aux personnes. Le patron de ce service, monsieur Philippe Guichard, sera en ligne tout à l'heure, vous l'entendrez. Il a expliqué à Charlotte Méritant le dispositif d'enquête qui a été mis sur pied pour résoudre cette affaire et le rôle de son service, l'OCRVP. Voilà, on va faire une première pause. Bien sûr, vous pouvez nous joindre tout au long de l'émission, comme chaque jour, au 3210, hein, le numéro de le standard d'RTL, ou communiquer avec nous par courriel sur rtl.fr. Et dans un instant, nous retrouvons Eric et Nathalie Tronche, les parents de Lucas, et nous revenons sur un certain nombre d'éléments de cette enquête.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
L'enquête sur la disparition de Lucas Tronche, donc à la une de notre émission aujourd'hui. On va retrouver tout de suite donc dans le studio RTL à 7 dans l'Hérault, Nathalie et Eric Tronche, les parents de Lucas. Alors, dans un instant, on va parler de... Il y a eu deux messages successifs qui vous sont parvenus, l'un par notre intermédiaire, en fait, après l'émission que nous avions faite en octobre dernier, et puis, il y a quelques jours, vous avez, par un autre canal, reçu un autre message. On va parler de cela, en espérant, évidemment, et vous, et nous, qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui puisse se permettre de jouer avec l'émotion, avec l'angoisse d'une famille. Vous nous direz pourquoi vous avez pris ces messages au sérieux, et ce que vous avez envie de lancer comme appel à l'auteur de ces messages. Mais d'abord, je voudrais avec vous deux qu'on revienne sur les quelques éléments, ils sont assez maigres, hein, qui ont été obtenus depuis la disparition donc de Lucas. Il y a cet élément qui est le fait que ses affaires de piscine sont restées à la maison, donc on peut se dire que son départ a été volontaire. Est-ce que vous confirmez cette hypothèse ?
Oui, je pense que c'est ce vers quoi tendent les enquêteurs, effectivement, puisqu'il n'y a aucun signe qui semble montrer que Lucas aurait été enlevé à la sortie de la maison. Un départ volontaire a l'air évident.
Il a pris d'autres affaires personnelles, à votre connaissance ?
On a identifié juste un sac à dos qui sert à la maison pour mettre les pique-niques, les goûters. Donc il aurait pris ce sac à dos, mais on n'identifie rien qu'il ait pu mettre dedans.
D'accord. Et il avait un téléphone portable qui était resté muet. Il y avait une interrogation quand on avait fait l'émission en octobre. On savait qu'il y avait eu des messages WhatsApp. Je crois que depuis, oui. Vous avez maintenant pu prendre connaissance de ces messages.
Oui, bien sûr. Heureusement, la commission rogatoire internationale, elle a été lancée pour avoir ces dossiers Snapchat. Et en fait, donc les Américains, finalement, ils ont répondu assez vite, en 10 jours. Ouais. Et malheureusement, voilà, il n'y avait aucun élément probant qui a été mis en évidence, quoi. Mais ce qui est important, c'est que la porte, elle a pu être refermée pour les enquêteurs, donc
voilà, bien sûr.
Ça permet de se recentrer sur d'autres hypothèses, quoi.
Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a eu, j'avais noté cela, mais je veux vérifier tout ça avec vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des témoignages de, je sais pas, un randonneur, je croyais avoir entendu, qui aurait peut-être aperçu Lucas. Est-ce que c'était quelque chose qui a été retenu?
Vous parlez dans les premiers jours de la disparition?
Dans les premiers jours de la disparition,
tout à fait.
Oui.
Effectivement.
Oui, le 23,
oui, Eric Tronche, oui.
Le 23 mars, en fait, c'est un motard qui décrit très précisément Lucas et qui nous amène vraiment à croire ce témoignage. Et donc, Lucas serait vu partant seul, près d'un village à l'ouest de chez nous, à une quinzaine de kilomètres.
D'accord, mais pas, j'allais dire, pas dans la nature, enfin, près d'une route, quoi. Parce que, évidemment, on pense aussi beaucoup à l'accident, parce que c'est un endroit très accidenté, les environs de Bagnols-sur-Cèze.
Oui. Mais c'est près d'une route, mais il se dirigerait donc à ce moment-là vers le nord, dans les collines. Et là, il n'y a plus que des sentiers forestiers.
D'accord.
Praticable, carrossable, quand même.
Oui, voilà, c'est ça. C'est pas forcément des ravins et des...
Non.
Parce que malheureusement, on a pensé beaucoup à ça, mais d'un autre côté, le fait que justement il n'y ait pas eu de découverte de cet ordre-là vous rassure, quoi.
Oui. On craignait beaucoup l'ouverture de la chasse.
Voilà. Un père et sa fille auraient qui connaissaient Lucas de vue, je crois, l'auraient aperçu, pense l'avoir aperçu au Pontet près d'Avignon, dans une grande surface.
C'est ça, c'est le dernier témoignage. Donc, c'est dans un magasin de la zone commerciale du Pontet. Donc, il aurait été vu le samedi 28 mars dans l'après-midi. Il était dans un magasin. Ouais. Il était habillé avec des vêtements neufs et accompagné d'une femme d'environ 40-45 ans. Voilà.
Alors, je disais tout à l'heure, on peut toujours se tromper de bonne foi, mais là, il s'agit de personnes qui connaissaient Lucas de vue.
La jeune fille le connaissait effectivement, puisqu'ils sont ensemble au club de natation.
Oui. Et là, malheureusement, les recherches, évidemment, n'ont rien donné pour l'instant dans cette zone-là. Quoi.
En fait, ouais. le temps qu'ils réalisent, Lucas et la personne qui l'accompagnerait étaient partis.
Oui. Alors, on va en venir à ces deux messages successifs. Par rapport à ceux qui écoutent l'émission, on ne va pas vous donner beaucoup de détails sur le contenu de ces messages, ni comment ils vous sont arrivés, parce que je crois que les enquêteurs préfèrent garder cela, évidemment, hein, pour l'enquête, c'est bien naturel. Simplement, on peut dire que ce sont deux messages successifs qui semblent, pour des raisons que les enquêteurs connaissent, qui semblent émaner de la même personne, on est d'accord ?
Oui, c'est ça. Et en fait, ils nous disent tous les deux, en fait, de ne pas nous inquiéter, et nous disent que ces deux messages, que Lucas va bien.
Alors, l'un de ces messages est arrivé la semaine qui a suivi l'émission d'octobre, et puis l'autre message, vous êtes arrivé par un autre biais, il y a
une dizaine de jours,
beaucoup plus récemment. Alors, qu'est-ce que vous voulez vous adresser à cette personne, si elle est bien l'auteur des deux messages ?
Bah oui, parce que nous, ce qu'on a envie de lui dire, c'est que évidemment, on a reçu ce deuxième message qu'on avait beaucoup espéré, hein, puisqu'on avait même fait une vidéo pour justement créer un lien avec cette personne et pour qu'elle nous donne un signe de Lucas. Mm-hmm. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on attend. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, on a ce doute, comme vous le disiez en début d'émission, où on se dit, est-ce que ça serait pas une blague, parce que ça serait une mauvaise blague, mais ça serait quelqu'un qui voudrait nous rassurer, mais qui malheureusement, ce serait des propos non fondés. Ouais. Donc aujourd'hui, nous, on a qu'une envie, c'est y croire, hein, évidemment. Et donc, ce qu'on demande à cette personne, qu'on remercie déjà pour ces deux messages, parce que ça nous fait du bien, on a envie de lui dire, écoutez, essayez de nous envoyer un signe de Lucas, quoi, pour qu'on soit sûr qu'il s'agisse bien de lui. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance, elle reste, et l'incertitude, elle reste. Le temps passe, ça fait un an, et on peut vous dire que ça s'accroît même toujours de manière plus insoutenable. C'est de plus en plus difficile.
Bien sûr. Et on peut vous joindre, évidemment. Les moyens ne manquent pas. Hein. Il y a un site, toujours le site internet.
Voilà, il y a le site Retrouvons Lucas. Mm-hmm. Voilà. Et on a même mis en place, en fait, un téléphone, une ligne dédiée à Lucas. En fait, c'est une personne que Lucas ne connaît pas. C'est une personne qui est maintenant autour de nous, qui s'est proposée comme médiateur. Oui. Et donc, il y a un téléphone. Donc, c'est le 07 88 76 72 92. Ce qu'il faut que Lucas sache, c'est que, par exemple, s'il veut laisser un message vocal, il peut le faire sur cette messagerie, voilà, où il peut parler à cette personne qui saura quoi lui dire et l'écouter surtout.
Bien sûr, alors évidemment, on va mettre ce numéro sur le site internet, évidemment, rtl.fr. Je répète le numéro 07 88 76 72 92. Un moyen pour la personne qui vous envoie les messages, soit directement pour Lucas, s'il entend votre appel, de au moins laisser un signe de vie et évidemment de lever une angoisse qu'on comprend et qu'on partage. Quoi. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. Évidemment, et je m'adresse là à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, vous pouvez également nous joindre tout au long de l'émission, comme je le disais tout à l'heure, au 3210 ou sur rtl.fr.
Jusqu'à 15h, Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Nous retrouverons tout à l'heure Eric et Nathalie Tronche, les parents de Lucas. Mais après l'appel qu'ils viennent de lancer sur notre antenne, il faut peut-être compléter. D'abord compléter en donnant un autre numéro de téléphone. Si vous pensez avoir une information qui peut concerner l'enquête sur la disparition de Lucas, vous pouvez contacter le SRPJ, les services donc régional de police judiciaire de Montpellier, au 04 67 99 35 97, 04 67 99 35 97. Et nous avons, vous pouvez retrouver évidemment ce numéro à la page de l'heure du crime sur RTL.fr. Et certains auditeurs nous disaient, mais que faire si on a des informations ou si on croise ce garçon? Et je crois que le conseil que donnent toujours les services de police dans ce cas-là, comme dans les alertes enlèvement, n'intervenez pas vous-même. Recueillez le maximum d'informations, prévenez un service de police, parce que ce n'est pas le travail des citoyens de...
Je voudrais juste rajouter quelque chose.
Je vous en prie, Nathalie.
Voilà, les enquêteurs, ils nous incitent vraiment à suggérer que les personnes qui croient le voir prennent une photo de la personne.
Bien sûr.
Parce que c'est vrai qu'une preuve matérielle, ça aide beaucoup.
Bien sûr, et vous avez raison de le préciser, parce que ce sont des choses, on n'y réfléchit pas forcément.
Tout le monde, avec un téléphone portable aujourd'hui, c'est souvent possible.
Voilà, donc je voulais ajouter ces deux éléments. On vous retrouve donc dans quelques minutes, tous les deux. Mais tout à l'heure, donc au début de l'émission, on entendait Madame la procureure de la République de Nîmes qui parlait des deux services de police qui sont associés à l'enquête sur les disparitions de Lucas, donc l'APJ de Montpellier, bien sûr, et l'OCRVP, ce service qui a compétence nationale, je crois. Et Charlotte Méritant a joint il y a quelques heures Philippe Guichard, le patron de cet office central pour la répression de la violence aux personnes. Et Philippe Guichard, vous allez l'entendre, explique comment intervient concrètement son service dans des affaires de disparition inquiétantes, comme par exemple celle de Lucas Tronche.
Dans un premier temps, dans une affaire de disparition inquiétante, c'est la sécurité publique qui est saisie habituellement. Si l'affaire semble vraiment problématique, la PJ locale est saisie. Normalement, ils sont capables de gérer eux-mêmes le début des investigations. Si jamais le dossier... s'avère très important, qu'il s'enlise, qu'il ne sort pas, comme on dit. On peut proposer notre assistance au service de PJ local et aux magistrats pour amener une plus-value qu'on espère la plus décisive possible.
Et à ce moment-là, à partir de là, quel est votre rôle ?
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on relit le dossier, on regarde ce qui a été fait par les collègues, on envisage une extension des recherches au-delà du ressort territorial, à l'étranger. On essaye de vérifier si toutes les pistes ont été explorées à notre avis. Et on propose un protocole d'action au service local. Et si tout le monde est d'accord, il y a une co-saisine de l'office qui vient donc en assistance du service local.
Et concrètement, quelles actions vous pouvez mettre en place, par exemple ?
Dans une affaire, en général, les pistes prioritaires sont l'environnement immédiat, familial, professionnel de la victime, quoi. Mais si ça donne pas de résultats satisfaisants, il faut bien qu'on essaye d'étendre les recherches au-delà. Donc on peut être amené à travailler sur de la téléphonie, sur de la vidéo, sur des fouilles... sur des techniques d'enquête qui sont pas forcément disponibles sur le plan local. On demande l'assistance de psy, on essaye de faire des recoupements entre différents dossiers, on voit si il y a pas un volet international qui pourrait être intéressant à fouiller. On vérifie par rapport à des fichiers à notre disposition, le FIGES par exemple, FIGES qui est le fichier des délinquants sexuels. Bref, on essaye d'étendre les recherches au-delà du cercle immédiat et proche de la victime.
Et quel type d'affaires est-ce que vous traitez en majorité ?
On intervient en assistance sur les affaires évidemment de disparitions inquiétantes qui deviennent des disparitions criminelles en quelque sorte, notamment d'enfants. Il y en a pas souvent, mais des affaires comme l'affaire Estelle Mouzin à Versailles par exemple... ou l'affaire Lucas Tronche sur le ressort du SRPJ de Montpellier, on intervient en assistance. Mais on intervient aussi en assistance de dossiers d'homicide, notamment des dossiers qui deviennent petit à petit des cold cases, ou alors des dossiers sériels, notamment des dossiers de viol ou d'agression sexuelle sérielle.
Est-ce que dans les cas de disparition inquiétante, vous obtenez des résultats souvent positifs ?
On aimerait bien qu'elles aboutissent à des résultats positifs. Pas toujours, malheureusement. La preuve, c'est que l'affaire Estelle Mouzin commence à dater, puisqu'elle a disparu en janvier 2003, et qu'on n'a toujours pas d'éléments précis au dossier. Notre objectif, c'est d'essayer de tout mettre en œuvre, de jamais perdre le moral, de tout mettre en œuvre pour essayer de trouver la solution.
Voilà, et tout est mis en œuvre, donc, comme on le rappelait au début de l'émission. Nous allons faire une pause tout de suite, et on va se retrouver ensuite pour parler de la personnalité de Lucas. Et nous allons le faire en retrouvant, bien sûr, les parents de Lucas. Et puis, aussi, avec ma consoeur de Midi Libre, Hélène Amiraud, qui sera en ligne en direct avec nous dans un instant.
Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime.
La personnalité de Lucas, je crois qu'il est important de parler aussi de la personnalité de quelqu'un qui a disparu, ne serait-ce que pour renforcer aussi peut-être l'intérêt de ceux qui pourraient avoir des informations à donner. Lors de l'émission que nous avions consacrée à cette disparition le 21 octobre dernier, donc en 2015, nous avions diffusé ce témoignage que nous allons entendre maintenant. C'est Charlotte Méritant qui avait pu joindre au téléphone une amie d'enfance de Lucas, Lola. Écoutez.
Bah en fait, j'ai connu à la maternelle. Donc après, on s'est suivi jusqu'au lycée, en fait. Hein. On était toujours dans le même établissement, au moins. C'était quelqu'un de très simple, qui est assez attentionné, quand même.
Quels sont ses centres d'intérêt?
Je sais qu'il aimait vachement la nature. Il était au scout. Après, il faisait du badminton.
Est-ce que vous savez s'il a des projets, des rêves? Est-ce qu'il en parlait de ça?
Je sais qu'il voulait devenir vétérinaire, donc il s'intéressait beaucoup aux animaux, tout ça. Il a 2 chats, 2 tortues, des poissons, un hamster.
Comment ça se passait en classe au lycée?
Ça se passait bien, il avait des bonnes notes, il participait, c'était vraiment bien.
Quel est votre sentiment à vous par rapport à sa disparition? Est-ce que vous pensez qu'il a pu fuguer ou être enlevé?
En fait, je sais pas trop quoi penser, parce que tant qu'il ait été enlevé, ça serait bizarre qu'il n'ait pas eu ou tout ça, et qu'il est fugué, c'est pas son style, donc après, comme il était discret, peut-être qu'elle a réussi à cacher quelque chose, mais bon, ça m'étonnerait vraiment.
Alors, je reviens vers vous, Nathalie et Eric Tronche, bien sûr, j'imagine que vous savez chercher. Est-ce qu'il ne tenait pas de journal intime, Lucas?
Non, on a retrouvé son carnet de texte, hein, et donc il n'y a rien de spécial.
Et il n'a fait aucune confidence à un condisciple ou à un professeur. Tout ça a été évidemment passé, j'imagine, au crible, quoi.
Oui, tout ça, ça a été vérifié. Au sport, au scout, les profs, les collègues. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de confidence.
Et le jour de sa disparition, lorsqu'il dit à son frère, je vais te rejoindre, est-ce qu'il avait, il l'avait trouvé comme d'habitude?
Oui, il lui dit « Vas-y, je ferme la maison ». Et par contre, voilà, ça, ce n'était pas son habitude de laisser partir Valentin devant. Surtout qu'il est, surtout c'était lui qui précédait souvent. Il était plutôt à l'heure.
Oui. Et son frère donc a été surpris, mais en même temps, il y avait le bus à prendre, quoi. En fait, il n'a pas trouvé son frère particulièrement préoccupé ou inquiet.
Non, non, non. Voilà, il n'y avait pas de préoccupation particulière, simplement l'étonnement qu'il est un peu en retard.
Oui, bien sûr. Alors, on va prendre en ligne Hélène Amiraud, donc journaliste à Midi Libre, qui était au tout début de l'affaire à la rédaction de Midi Libre de Bagnols-sur-Cèze. Vous êtes là, Hélène Amiraud?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors,
bonjour.
Bon, vous suivez cette affaire depuis le début, évidemment. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à tout ce qu'on a dit depuis le début? C'est-à-dire, je crois, autour, il y a cette vraie solidarité. Vous avez rencontré beaucoup de proches où, on parle beaucoup de l'affaire dans les réseaux sociaux également.
Oui, tout à fait. En fait, l'ami d'enfance de Lucas, résume tout à fait bien cette personnalité qui finalement constitue le mystère de sa disparition, parce que il est bien sous tout rapport, Lucas. Voilà, il est parfait. Il est, comme disait, je me souviens, ses parents au tout début. Voilà, il est parfait, notre fils. Et voilà, il rend service. Il est toujours attentionné. Curieux, il n'a pas de problème à l'école, il a toujours plein d'amis, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui ne fait pas parler de lui forcément, qui est discret. Et donc du coup, on a du mal à savoir si il avait peut-être quelque chose qu'il cachait ou pas, et qui est peut-être le ressort de cette affaire finalement, puisque au final on se dit que ce départ pouvait être peut-être volontaire, puisque rien ne vient infirmer que ce ne soit pas volontaire. Donc, en effet, voilà, et donc Lucas apparaît, voilà, sur ces images, sur ces appels à témoins qui sont maintenant diffusés très très largement dans la région, voire au-delà. Voilà, moi je suis à Montpellier maintenant et je vois ces images partout sur les commerces. Donc les gens sont vraiment mobilisés parce que ce visage, c'est un visage d'ange. Les gens on lui donnerait le bon Dieu sans confession à cet enfant. Donc voilà, tout le monde est mobilisé et c'est vrai que c'est depuis le début, que ce soit sur Facebook, sur Twitter, on le voit à travers l'opération des selfies qui a vraiment essaimé comme ça à travers le net et jusqu'à des personnalités très importantes comme de la chanson ou du football. Donc il y a eu Morane, Renan Luce, Fabienne Thibault et maintenant il y a des personnalités de la télévision comme Monsieur Foucault ou Cabella par exemple, le joueur de football. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui vraiment prend aux tripes et pour lesquels les gens continuent à se mobiliser, affichent sur leur voiture, dans les marathons, les opérations sportives, comme là, ce week-end à Colormirade à Montpellier, il y avait encore des gens qui diffusaient ce portrait. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui est très présent et qui est très prégnant.
Voilà. Et après ce que vous avez dit, on comprend l'importance de l'appel que lançait tout à l'heure Nathalie Tronche à l'auteur de ces messages, quoi, parce que c'est vrai que on a peur que soit quelqu'un qui joue avec la détresse, mais on espère aussi que ce ne puisse pas être le cas. Et puis voilà, et puis on préfère se dire que peut-être cette personne a une clé et qu'il faut absolument qu'elle réponde aux appels que lui lancent les parents.
Oui, tout à fait, parce que en fait, jusqu'à présent, évidemment, il y a beaucoup de témoignages, il y a eu beaucoup de choses qui sont parvenues aux services d'enquête, aux parents, etc. Mais c'est vrai que ces messages-là semblent particuliers dans le sens où ils s'adressent directement aux parents, voilà, dans des termes toujours les mêmes. Et donc, c'est vrai que ce type de message n'est arrivé dans aucun autre média. Voilà. Donc, alors que depuis le départ, il y a quand même beaucoup de diffusion médiatique sur cette affaire-là. Oui, et donc, c'est arrivé très tardivement déjà et à un seul média, oui. ce qui paraît assez étrange.
Oui, voilà. Absolument. Bah, écoutez, je vous remercie. Évidemment, vous continuez à suivre tous les développements de cette enquête. Je vous remercie. On va faire une dernière pause dans l'émission. Je crois que Nathalie Tronche et Eric Tronche sont en ligne. On va les retrouver tout de suite après. Et on a demandé aujourd'hui à un criminologue d'écouter cette émission. C'est quelqu'un... Alors, c'est pas un profileur et c'est pas quelqu'un qui fait de la fiction, hein, avec des affaires réelles. Il s'agit de monsieur Jean-Pierre Bouchard qui est psychologue, criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes d'ailleurs, et à qui on a demandé d'écouter tout ce qui allait se dire autour de l'affaire, autour de l'enquête, autour de la personnalité de Lucas, peut-être pour nous donner un éclairage, ou qui sait, évidemment pas pour résoudre l'affaire comme par miracle, hein, mais pour nous donner peut-être, ou pour vous demander à vous, Eric et Nathalie Tronche, quelques détails qui puissent faire avancer les choses. On se retrouve dans un instant.
L'heure du crime sur RTL.
Nous allons donc prendre tout de suite en ligne monsieur Jean-Pierre Bouchard, donc psychologue, criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Bonjour Jean-Pierre Bouchard.
Oui, bonjour.
Alors, on vous avait demandé d'écouter, effectivement, parce que, bon, bien sûr, il n'est pas question, c'est pas un jeu policier, hein, mais c'est peut-être de profiter de votre éclairage particulier. Qu'est-ce qui vous semble intéressant dans tout ce que vous avez entendu, qui pourrait peut-être être creusé ou amené à soit à privilégier une hypothèse, soit à en éliminer d'autres.
Oui, d'abord la personnalité de ce jeune qui est effectivement un enfant assez lisse, dans le sens qu'il est bien éduqué, sans aspérité particulière, et ce qui élimine plein de pistes, c'est-à-dire des comportements aberrants, des fuites à pétition, des choses comme ça. Ouais. Donc je dirais que bon, il y a hélas la chose classique dans les disparitions inquiétantes qui durent. c'est-à-dire le manque d'indices probants et le manque de preuves probantes. Ceci dit, il y a quand même des choses intéressantes. C'est que ce manque d'indices, c'était dit par la journaliste et c'est assez intéressant, peut révéler, c'est pas du tout certain, le fait que dans la première partie, au moins, de sa disparition, elle peut être volontaire. Mmh. C'est la raison pour laquelle il laisse rien d'apparent. C'est pas certain, mais on peut le présager tout à fait raisonnablement. Et moi, je trouve qu'il y a un élément extrêmement intéressant. C'est le dernier témoignage sur le fait qu'il ait pu être vu et reconnu par une jeune fille qu'il connaissait déjà à la piscine, si j'ai bien compris. Donc, c'est-à-dire il y a un niveau assez faible qu'elle ait pu se tromper sur sa reconnaissance. Donc, le fait qu'il ait pu être vu dans ce commerce avec cette femme mature. Alors là, je pense que ça a été fait. Hein, mais
alors justement, écoutez, restez en ligne. On va demander à Nathalie et Eric Tronche hein, qui vous écoutent. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus sur la nature de ce témoignage?
En fait, la jeune fille, c'est le papa d'abord qui voit Lucas, mais lui, il ne la connaît que par les photos de la vie de recherche hein, depuis une semaine, ouais. À ce moment-là. Et par contre, donc, il fait venir sa fille et sa fille ne le voit que de profil. Uh-huh. Voilà. Donc le papa, à ce moment-là, il a un peu peur qu'il soit découvert, si vous voulez. Ouais. Donc il s'éloigne un petit peu. Ouais. Il va chercher finalement le reste de sa famille pour avoir un autre avis. Et malheureusement, dans cet intervalle de temps... les deux personnes ont disparu.
Et il n'a pas pu prendre de
photos.
Donc,
si vous voulez, voilà. Pour eux, ils sont sûrs à 90%, mais après, ouais. Un témoignage reste un témoignage. Ouais. Je pense que le policier qui est avec nous, il n'en dira pas le contraire, malheureusement.
Ouais. Bien sûr.
Bien sûr. Alors, là-dessus, il y a le signalement physique, évidemment, vestimentaire de ces deux personnes, mais il y a aussi leur comportement. C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient l'air inquiets, peur d'être
reconnus? Non, ils n'ont pas senti du tout le jeune inquiet. Mm-hmm. Peut-être d'accord. Un peu plus la femme qui s'est rapprochée quand elle a vu qu'il y avait la jeune fille qui regardait de façon insistante.
Alors, il se serait aperçu qu'on... Ouais, voilà, mais enfin là...
C'est assez
ouais.
Court.
Oui, on peut pas en fait en dire plus, quoi. Ouais. Philippe Guichard, Jean-Pierre Bouchard, excusez-moi.
Oui.
J'avais une question. J'ai dit que vous étiez à la fois spécialiste des agresseurs et des victimes. Est-ce que on peut comprendre un scénario de ce type-là s'il y a agresseur? C'est-à-dire, si on imagine un enlèvement, une séquestration, c'est quelque chose qui vous parle?
C'est pas impossible, on peut pas l'éliminer puisqu'on n'a pas de preuve du contraire. D'abord, pour rassurer les parents, ce qu'il faut dire, c'est que il faut pas penser systématiquement à la mort de Lucas puisqu'il n'y a pas de corps retrouvé mort. Dans ce cas-là, on se comporte toujours comme s'il était vivant et on privilégie ce qu'a fait le parquet, les enquêteurs et les juges d'instruction, c'est-à-dire les hypothèses qui étaient évoquées, la fuite, la fugue, l'accident, etc. Donc tout est encore possible si vous voulez. Et puis il faut investiguer, il faut revenir à la charge sur chacun des éléments. Mmh. Et puis quelquefois il y a des facteurs chance. Hein. Il y a des facteurs chance. Il y a des éléments de preuve qui peuvent apparaître. Il y a des témoignages qui peuvent apparaître. Et puis il faut savoir qu'il y a eu de grandes enquêtes qui ont été résolues par l'attitude des parents, comme l'ont ces deux personnes actuellement. C'est-à-dire le fait qu'ils ne lâchent pas, qu'ils maintiennent une pression médiatique importante, qu'ils maintiennent des appels à témoignages importants parce que ça peut susciter le petit élément qui va déclencher en fait d'autres éléments importants.
D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter à ce qu'on a dit.
Non, parce que j'imagine que les enquêteurs, évidemment, en tant que professionnels, ont pensé à tout ça.
Bien sûr.
Ont investigué à tout ça et ont des éléments. Alors, il y a évidemment.
Il y a des éléments toujours qu'on garde dans une enquête, évidemment.
Oui, voilà. Moi, je connais pas tout, si vous voulez. Donc, j'imagine qu'il y a beaucoup d'éléments. Ouais. Évidemment, les deux appels à réassurance aux parents sont aussi extrêmement intéressants et c'est un lien évidemment à maintenir avec cette personne au cas où il y aurait des éléments véridiques.
Bien sûr. Je vous remercie beaucoup monsieur Bouchard. Nathalie,
j'aurais aimé dire effectivement nous on a un petit peu l'hypothèse qu'avait monsieur Bouchard puisqu'on pense effectivement à un départ volontaire aujourd'hui pour une balade par exemple et qui a mal tourné donc il y a eu une rencontre et on ne sait pas qu'est-ce qui se passe quoi. Et aujourd'hui nous, ce qu'on a envie de dire à Lucas c'est qu'on est vraiment inquiet, il a besoin de savoir si
va bien. On a envie de lui dire, sache qu'on t'attend les bras ouverts, que nous ne risquons rien et toi non plus, et que si des personnes t'ont dit ou te disent le contraire, il ne faut surtout pas les croire. Voilà.
Oui, parce que quelquefois on se dit, en cas de fugue, en tout cas, qu'il est toujours plus difficile de revenir que de partir. Voilà. Mais là, et vous l'avez dit, et d'ailleurs, dès les premiers jours, Éric Tronche, vous le disiez aussi, évidemment, Lucas n'a pas à redouter de réprimande.
Mais ça peut être quelqu'un d'influençable, Lucas, il est extrêmement gentil.
Non, on ne lui fera aucun reproche, on peut tout comprendre, on accepte tout. Il va avoir 17 ans la semaine prochaine et je voudrais lui dire que s'il pouvait nous appeler et qu'il nous fasse un signe avant cette date, ça serait bien, sinon ça va être une journée de torture.
Oui. C'est très difficile pour vous, bien sûr, pour son frère. Il y a d'autres frères et sœurs.
Oui. C'est très difficile aujourd'hui pour Arthur, qui a 11 ans. C'est de plus en plus difficile de le rassurer. Ils étaient très complices, puisque bon, ils ont 5 ans d'écart. Ils jouaient beaucoup ensemble. Ouais. Et c'est de plus en plus difficile pour nous de rassurer Arthur. Voilà. Il manque beaucoup à son frère, à ses deux frères. Hein, mais Arthur, qui est plus petit, c'est... Ouais. C'est difficile.
Oui. Et son frère aîné, lui, a repris...
Fait ses études supérieures, il en souffre énormément, c'est très difficile aussi, parce que lui, il se dit, je suis le dernier de la famille à l'avoir vu, mais voilà, Lucas était normal cet après-midi-là, il ne faut pas l'oublier, donc... voilà, donc il s'est passé quelque chose après, voilà, aujourd'hui, on n'a pas la clé, et il y a forcément quelqu'un, quelque part, qu'il y a des informations. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que la vie soit toujours diffusée et que personne n'hésite à téléphoner s'il pense avoir un élément, même s'il se dit « Oh, mais c'est rien, c'est pas grave », parce que, comme le disait M. Bouchard, tout est important dans une enquête. Quoi.
Je vous remercie beaucoup et je rappelle à ceux qui nous écoutent, en tout cas aujourd'hui, que nous avons mis sur RTL.fr les numéros de téléphone qu'on a évoqués dans l'émission, c'est-à-dire celui du SRPJ de Montpellier, et puis cet autre numéro, mais il faudrait qui est vraiment dédié à
Lucas. Bien sûr, hein, c'est le message pour la personne qui sera avec lui.
Voilà, et qui je rappelle ce numéro, le 07 88 76 72 92. C'est le numéro de quelqu'un qui est extérieur à l'affaire, extérieur à la famille. Et on peut de toute façon laisser un message, évidemment, sur le répondeur.
Je voudrais vous remercier déjà, parce que pour votre soutien, vous avez toujours été là. Et puis remercier les milliers de bénévoles en France qui vraiment ne comptent pas leur temps depuis le début. On les remercie du fond du cœur.
Oui, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler avec des nouvelles plus positives.
Voilà. J'espère qu'on vous racontera.
Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Merci à Aline Thibal qui a été votre hôte au studio RTL de Sète, près de Montpellier, aujourd'hui. Et voilà, et merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. On va se retrouver dans un instant avec Flavie Flamand.